Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton.
Depuis les années 80, la journaliste et écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch mène un travail d'enquête au cœur des traumatismes de l'histoire soviétique. Lors de longs tête-à-tête, elle écoute et consigne la parole longtemps bridée des témoins, avec le souci de mettre au jour les conséquences intimes des catastrophes de la grande histoire. On lui doit notamment les cercueils de zinc sur la guerre russo-afghane ou la supplication sur les victimes de Tchernobyl. Dans son dernier ouvrage, « La fin de l'homme rouge », sous-titré « Le temps du désenchantement », Svetlana Alexievitch s'attache à l'effondrement de l'Empire soviétique. L'urgence est de consigner les traces que le socialisme a laissées dans l'âme et la vie des gens. Les personnes interrogées sont souvent des femmes, des veuves, des mères, des fiancées. Elles ont connu plus souvent le malheur que le bonheur. Pas une famille russe qui n'ait sa part de tragédie. Nous vous proposons d'écouter 5 de ces témoignages. 5 femmes, 5 destins ancrés dans l'époque soviétique.
Nous sommes en train de faire nos adieux à l'époque soviétique, à cette vie qui a été la nôtre. Je m'efforce d'écouter honnêtement tous ceux qui ont participé au drame socialiste. Svetlana Alexievitch.
Почему мы не осудили Сталина? Я вам отвечу. Чтобы осудить Сталина, надо осудить своих родных, знакомых.
Вопрос стоит более конкретно. Где я хочу жить? В великой стране или в нормальной?
La fin de l'homme rouge. De Svetlana Alexievitch. Traduit du russe par Sophie Benesch. Choix d'extrait. Jean-Pierre Thibaudat.
Время было важно. Перестройка.
En direct du studio 114 de la Maison de la Radio.
Казалось, что вот-вот куда-то взлетим. Свобода была разлита в воздухе.
Cinquième et dernière émission.
Тамара Суховей, serveuse, 29 ans.
La vie, c'est une belle garce. Voilà ce que je peux te dire. Elle vous fait pas de cadeaux. J'ai jamais rien vu de bien ni de beau dans la vie. Je m'en souviens pas. On pourrait me tuer que je trouverais rien. Je me suis empoisonnée. Je me suis pendue. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Maintenant, je viens de m'ouvrir les veines. On m'a sauvée. Et j'ai dormi pendant une semaine. Je fais que ça à dormir. C'est mon organisme qui est comme ça. Une psychiatre est passée me voir. Elle m'a dit la même chose que toi maintenant. Vas-y, parle, parle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? La mort me fait pas peur. Bon, d'accord, écoute. Tout ça, c'est vrai. J'étais encore petite. Un jour, en rentrant de l'école, je me suis couchée. Et le lendemain matin, impossible de me lever. On m'a emmenée chez un médecin. Il n'a rien trouvé. Bon, alors on a cherché une guérisseuse. On nous a donné une adresse. La guérisseuse a étalé ses cartes et elle a dit à ma mère, en rentrant chez vous, ouvrez l'oreiller de votre fille, vous y trouverez un morceau de cravate et des os de poulet. Accrochez la cravate à une croix sur la route et donnez les os à un chien noir. Votre fille se lèvera et marchera. On lui a jeté un sort. J'ai jamais rien vu de bien ni de beau dans la vie. Le coup des veines, c'est de la foutaise. J'en avais juste marre de me battre. Quand j'étais petite, la seule chose qu'il y avait dans le frigo, c'était de la vodka. Chez nous, à la campagne, les gens commencent à picoler à 12 ans. La bonne vodka, ça coûte cher. Alors, ils boivent du torboyau, de l'eau de Cologne, du liquide pour laver les vitres, de l'acétone. Fabrique de l'alcool avec du cirage, avec de la colle. Les jeunes en meurent, bien sûr. Ils s'empoisonnent avec ça. Mon grand-père, lui, il a bu jusqu'à la fin. À 70 ans, il pouvait s'enfiler 2 bouteilles de vodka en une soirée. Et il s'en vantait. Il était revenu de la guerre couvert de médailles. Un héros. Pendant longtemps, il s'est pavané avec son manteau militaire. Il buvait, il faisait la bringue. C'était grand-mère qui travaillait. Lui, il était un héros. Il la tabassait à tour de bras, je me traînais à genoux devant lui en le suppliant de ne pas la toucher. Il nous courait après avec une hache. On allait dormir chez des voisins ou dans la grange. Il avait tué le chien à coups de hache. Après lui, je me suis mise à détester tous les hommes. Je voulais vivre toute seule. Ma sœur aînée vivait à la ville, c'est elle qui m'a fait venir. Tu vas suivre une formation, tu seras serveuse, t'es jolie, Tomka, tu trouveras un mari militaire, un aviateur. Un aviateur. Tu parles. Mon premier mari était petit et il boitait. Mes copines avaient essayé de me dissuader. Pourquoi tu prends un type comme ça, avec tous les beaux gars qui te courent après? Mais moi, j'ai toujours aimé les films sur la guerre où les femmes attendent que leur mari revienne du front, dans n'importe quel état, sans jambes, sans bras, mais vivant. Grand-mère racontait que dans notre village, il y en avait un qui avait perdu ses deux jambes. Eh bien, sa femme le portait dans ses bras. Il buvait, il faisait les 400 coups. Quand il traînait dans le caniveau, elle le ramassait. Elle le lavait dans une bassine. Et elle le couchait dans un lit tout propre. Je pensais que c'était ça, l'amour. Je comprends pas ce que c'est, l'amour. J'ai eu pitié de lui. Je l'ai dorloté. On a eu 3 enfants ensemble. Et puis, il s'est mis à boire. Il me menaçait avec un couteau. Il me laissait pas dormir dans le lit. Je couchais par terre. Quand je repense à tout ça, ça me fait pleurer. Ou alors j'ai envie de tout envoyer au diable. J'ai jamais rien vu de beau dans la vie. Seulement au cinéma, à la télévision. Je veux dire, juste rester assis avec quelqu'un, à rêver, à se réjouir de la vie. J'étais déjà enceinte de mon deuxième quand j'ai reçu un télégramme de mon village. « Viens à l'enterrement, ta mère. » Avant ça, dans une gare, une tzigane m'avait prédit « Tu vas faire un grand voyage, tu vas enterrer ton père et tu vas pleurer longtemps. » Je l'avais pas cru. Mon père était en bonne santé, c'était un homme tranquille. Ma mère était une ivrogne. Elle picolait dès le matin et c'était lui qui trayait la vache, qui faisait cuire les pommes de terre. Il faisait tout lui-même. Il l'aimait énormément. Elle l'avait ensorcelé. Elle connaissait des trucs, des filtres. Je suis arrivée à la maison. J'étais devant le cercueil à pleurer. Et la fille de la voisine m'a chuchoté à l'oreille. C'est elle qui l'a tué avec une barre de fonte. Et elle m'a dit de me taire. Elle m'a promis de m'acheter des chocolats. Je me suis sentie mal. J'en avais des nausées de peur, d'horreur. Une fois que tout le monde est parti et que j'ai été seule dans la maison, j'ai déshabillé mon père pour voir s'il avait des bleus. Il n'en avait pas. Juste une grosse éraflure sur le crâne. Je l'ai montré à ma mère. Elle m'a répondu qu'il s'était fait ça en cassant du bois. Le manche de la hache s'était détaché et lui était retombé dessus. J'ai passé toute la nuit à pleurer. Et je sentais qu'il voulait me dire quelque chose. Mais ma mère ne me quittait pas d'une semelle. Elle n'a rien bu toute la nuit. Elle ne m'a pas laissée seule une seconde. Au matin, j'ai vu une larme de sang qui coulait sous la paupière de mon père. Puis une deuxième, une troisième. Elle coulait comme s'il était vivant. C'était terrifiant. Dès que mon père a été enterré, ma mère s'est mise à boire. Elle était très gaie. Moi, je pleurais. Même maintenant, ça me fait encore pleurer à chaudes larmes. Ma propre mère. C'est elle qui m'a donné la vie. Ça devrait être la personne la plus proche de moi. Dès que je suis partie, elle a vendu la maison. Elle a mis le feu à la grange pour toucher l'assurance. Et elle est venue chez moi, en ville. Là, elle s'est très vite trouvée quelqu'un d'autre. Il a flanqué dehors son fils et sa belle-fille. Et il a mis l'appartement à son nom à elle. Elle attirait les hommes. Elle connaissait des secrets pour ça. Elle les ensorcelait. Moi, le mien, il me poursuivait avec un marteau. Il me tapait sur la tête. J'ai eu 2 fractures au crâne. Une bouteille de vodka, un cornichon dans chaque poche et il partait. Où il allait, comme ça, les enfants avaient le ventre vide. On mangeait avec des pommes de terre les jours de fête avec du lait ou des anchois. Il valait mieux pas essayer de dire quelque chose quand il rentrait. Il vous envoyait un verre à la figure, il flanquait une chaise contre le mur. La nuit, il me sautait dessus comme un animal. J'ai jamais rien connu de bien dans la vie, même pas des petites choses. J'arrivais au travail couverte de bleu, j'étais bouffie d'avoir pleuré, et fallait sourire, dire bonjour. Le directeur du restaurant me convoquait dans son bureau. « Tes larmes, on n'en a pas besoin ici. Moi, ça fait 2 ans que ma femme est paralysée. » Et il mettait la main aux fesses. Ma mère n'a même pas vécu 2 ans avec mon beau-père. Un jour, elle m'a téléphoné. « Viens me donner un coup de main, il faut l'emmener au crématorium. » J'ai failli me trouver mal tellement j'avais peur. Mais fallait bien y aller. Je pensais qu'à une chose. Et si c'était elle qui l'avait tué? Pour avoir l'appartement pour elle toute seule. Boire et faire la bringue, hein? Et maintenant, elle était pressée de l'emmener au crématorium, de le brûler avant que ses enfants arrivent. Son fils aîné était colonel, il allait venir d'Allemagne, et il resterait plus qu'une poignée de cendres, 100 grammes de poussière dans un vase blanc. Avec toutes ces émotions, j'ai arrêté d'avoir mes règles, je ne les ai pas eues pendant 2 ans. Quand elles ont recommencé, j'ai demandé au médecin « Enlevez-moi tout ça, opérez-moi. Je veux pas être une femme, je veux pas être une maîtresse, ni une épouse, ni une mère. Ma propre mère, c'est elle qui m'a donné la vie. J'aurais voulu l'aimer. Quand j'étais petite, je lui demandais « Maman, embrasse-moi. » Mais elle était tout le temps bourrée. Quand papa était au travail, la maison était pleine de types sous. L'un d'eux m'a traîné dans son lit. J'avais 11 ans. Quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a hurlé dessus, c'est tout. Elle buvait. Toute sa vie, elle a fait que ça. Boire et prendre du bon temps. Et voilà que maintenant, fallait mourir. Non, elle voulait pas. Pour rien au monde. Elle avait 59 ans. On lui a enlevé un sein et l'autre, un mois et demi plus tard. Et elle, elle avait un jeune amant. Elle s'était trouvé un type qui avait 15 ans de moins qu'elle. Elle hurlait « Emmenez-moi chez une guérisseuse, sauvez-moi !» Elle allait de plus en plus mal. Le jeune gars s'occupait d'elle, il vidait son bassin, il la lavait. Elle disait « Si je meurs, je lui laisserai tout, l'appartement, la télévision. » Elle voulait nous faire du mal à ma sœur et à moi. Elle était méchante. Et elle aimait la vie. Elle s'y accrochait. On l'a emmenée chez une guérisseuse. On a dû la porter pour la sortir de la voiture. La guérisseuse a récité une prière et a étalé ses cartes. Ça alors, elle s'est levée. Emmenez-la, je la soignerai pas. Elle en a envoyé plus d'un dans l'autre monde. Quand elle est tombée malade, elle est allée à l'église et elle a mis 2 cierges. C'était pour la santé de mes enfants, a dit ma mère. La vieille, tu parles, c'était pour leur mort. T'as demandé la mort de tes enfants, t'as pensé que si tu offrais tes filles à Dieu, toi tu pourrais rester. Après ça, je suis plus jamais restée seule avec ma mère. J'avais peur. Je savais que j'étais pas très forte. C'est elle qui aurait eu le dessus. Je prenais ma fille aînée avec moi et quand je lui donnais à manger, ma mère était folle de rage. Elle était en train de mourir et il y avait quelqu'un qui mangeait, qui allait vivre. Elle avait découpé son couvre-lit tout neuf avec des ciseaux et aussi la nappe pour que personne les ait quand elle serait plus là. Elle cassait ses assiettes, tout ce qu'elle pouvait, elle le mettait en pièces, elle le brisait. On pouvait jamais l'emmener jusqu'aux toilettes, elle faisait exprès par terre ou dans son lit pour que je nettoie. Elle se vengeait parce qu'on allait rester en vie, parce qu'on marchait, parce qu'on parlait. Elle détestait tout le monde. Quand un oiseau se posait sur la fenêtre, elle l'aurait tué si elle avait pu. On était au printemps, ça sentait le lilas, elle respirait cette odeur, mais ça ne lui suffisait pas. « Va m'en cueillir une branche dans la cour !» Je lui en ai apporté une, et à la seconde même où elle l'a touchée, elle s'est fanée. Les feuilles se sont recroquevillées. Alors elle m'a dit « Donne-moi ta main ». Mais la vieille m'avait prévenu qu'une personne qui a fait beaucoup de mal met longtemps à mourir, dans de terribles souffrances. Faut ouvrir le plafond ou démonter toutes les fenêtres, sinon son âme n'arrive pas à quitter son corps. Et faut surtout pas lui prendre la main, elle vous passerait son mal. « Pourquoi tu veux ma main ?» Elle répondait pas. Elle se faisait toute petite. La nuit, j'avais peur qu'elle nous étouffe sous des oreillers, ma fille et moi. Et on était bien capables. Je fermais les yeux, mais je guettais pour voir comment son âme allait s'en aller. À quoi ça pouvait bien ressembler, une âme? Ce serait une lumière ou un nuage? Les gens racontent toutes sortes de choses, mais personne ne l'a jamais vue, cette âme. Un matin, je suis sortie faire des courses. J'avais demandé à une voisine de rester avec elle. Elle lui a pris la main, et ma mère est morte. Je l'ai lavée et habillée moi-même, sans éprouver aucune émotion, comme si c'était un objet, une casserole. Je ressentais rien. Mes sentiments s'étaient cachés. Des amis à elle sont passés, elles ont volé le téléphone. Toute la famille est arrivée, tout le monde a commencé à se chamailler. Les gens ont commencé à se partager ses affaires, la nuit même. Alors qu'elle était encore là, dans son cercueil. Ils emballaient le téléviseur, la machine à coudre. Ils lui ont enlevé ses boucles d'oreilles en or. Moi, je restais là à pleurer. Je commençais même à avoir pitié d'elle. J'ai plus beaucoup de larmes maintenant. Ça m'étonne moi-même de voir à quel point tout m'est devenu indifférent. La mort, la vie, les bons, les méchants. Je m'en contrefiche. Quand le destin a une dent contre toi, il n'y a rien à faire. On n'échappe pas à ce qui est écrit. Ma sœur aînée, chez laquelle je vivais, s'est mariée une seconde fois et elle est partie au Kazakhstan. Je l'aimais beaucoup. Et j'avais un mauvais pressentiment. Mon cœur me disait qu'il ne fallait pas qu'elle épouse cet homme. C'est un homme bien, j'ai pitié de lui. Il s'était retrouvé dans un camp à l'âge de 18 ans à cause d'un gars qui s'était fait égorger dans une bagarre. J'ai reçu un télégramme. Tante Thomas, venez. Maman est morte. Anya. C'était sa fille de 11 ans qui l'avait envoyée. On venait de clouer un cercueil et voilà qu'il y en avait déjà un autre. Il avait bu et il avait fait une crise de jalousie. Il lui avait flanqué des coups de pied et l'avait poignardé avec une fourchette. Il avait violé son cadavre. Il était bourré ou il avait fumé quelque chose, je sais pas. Le lendemain matin, à son travail, il avait dit que sa femme était morte et on lui avait donné de l'argent pour l'enterrement. Il l'avait remis à sa fille et il était allé se dénoncer à la milice. La petite vit chez moi maintenant. Elle veut pas travailler à l'école, elle a quelque chose au cerveau, elle a aucune mémoire. Elle a peur de tout. Elle sort pas de la maison. Et lui... Lui, il a été condamné à 10 ans. Après, elle viendra voir sa fille. C'est son père, non? Quand j'ai divorcé de mon premier mari, je me suis dit que je laisserai plus jamais un homme mettre les pieds chez moi. J'en avais assez de pleurer, de vivre couverte de bleu. J'aime pas les hommes. Ils me font peur. Je comprends pas comment j'ai pu me remarier. Il était revenu d'Afghanistan avec un traumatisme. Il avait été blessé 2 fois. Un parachutiste. Il n'enlève jamais son maillot de corps. Il habitait avec sa mère dans l'immeuble d'en face. Il s'installait dans notre cour avec son accordéon. Ou bien il allumait un magnétophone. Il écoutait des chansons afghanes très plaintives. Une fois, je me suis assise sur le banc à côté de lui. C'est quoi la guerre? La guerre, c'est quand on a envie de vivre. Il m'a fait de la peine. Il n'a jamais eu de père. Et sa mère est infirme de naissance. S'il avait eu un père, on ne l'aurait pas envoyé en Afghanistan. Son père aurait fait des démarches, il aurait versé des pots de vin comme les autres. Tandis que sa mère et lui, je suis allée chez eux. Un lit et des chaises, une médaille accrochée au mur. J'ai eu pitié de lui et j'ai pas pensé à moi. On s'est mis ensemble. Il est arrivé chez moi avec une serviette de toilette et une cuillère. Il avait apporté sa médaille et son accordéon. Je m'étais imaginé, j'en avais fait un héros, un défenseur de la patrie. J'ai posé moi-même une couronne sur la tête. J'avais convaincu les enfants que c'était un roi, qu'on vivait avec un héros. Il avait accompli son devoir de soldat, il avait beaucoup souffert. J'allais le réconforter, le sauver. Une vraie mère Teresa. Je ne suis pas très croyante. Je demande juste... Seigneur, pardonne-nous. L'amour, c'est une petite blessure. On commence par plaindre quelqu'un. Si on aime, on plaint. C'est la première chose. Il courait en dormant. Ses jambes ne bougeaient pas, mais il avait les muscles qui remuaient, comme quand on court. Des fois, il courait comme ça toute la nuit. Et maintenant, ses copains le ramènent en pleine nuit et le déposent sur le seuil. Sans montre, sans chemise, il reste là, à moitié nu. Les voisins sonnent à ma porte. Faut le rentrer, Tamara, il va crever de froid. Je le traîne à l'intérieur, il pleure, il hurle. Il se roule par terre. Il n'arrive pas à garder un travail. Il a été garde du corps, veilleur de nuit. Ou il est bourré, ou il a la gueule de bois. Il a vendu tout ce qu'on avait pour s'acheter à boire. Je sais jamais s'il y aura quelque chose à manger à la maison. Il flanque le bordel partout. Ou alors il reste assis, devant la télé. Les voisins ont un locataire, un Arménien. Un jour, il a dit quelque chose qui n'a pas plu à mon mari et il s'est retrouvé par terre, dans une mare de sang, avec les dents cassées et le nez écrabouillé. Il n'aime pas les Orientaux. Pour la fête des paras, ils se réunissent entre potes, tous en maillot de corps, comme lui, et ils boivent comme des trous. Ils dégueulent dans mes toilettes. Ils ont quelque chose de détraqué dans le cerveau. Ils se sentent supérieurs. Ouais, nous, on a fait la guerre, on est des vrais mecs. Ils n'arrivent pas à avoir une vie normale. Je peux pas vous dire si c'est à cause de la vodka ou à cause de la guerre. Ils sont féroces comme des loups. Ils détestent les Caucasiens et les Juifs. En Russie, ils s'embêtent. Se réveiller, faire sa toilette, prendre son petit déjeuner, c'est pas marrant. Ils seraient prêts à aller en Tchétchénie immédiatement si on leur demandait. Jouer les héros. Ils en veulent au monde entier, aux politiques, aux généraux, à ceux qui n'ont pas été là-bas, surtout à ceux-là. Beaucoup n'ont pas de métier, comme le mien. Tous les jours, c'est la même chose. File-moi du fric. Non, viens ici, chienne, et ils cognent. Après, ils pleurent, ils se plaignent à mon cou. Ne m'abandonne pas. Pendant longtemps, il m'a fait pitié. Cette saloperie de pitié. Mais je me laisserai plus avoir. C'est pas la peine de me parler de ça. T'as qu'à bouffer ton vomi à la petite cuillère et t'étouffer avec. Pardonne-moi, Seigneur, si tu existes. Pardonne-moi. Une voyante m'a appris des trucs simples avec du sel, avec une poignée de sable. Ça n'a rien donné. La vodka et la guerre, c'est des choses dont on ne guérit pas. Je suis tellement fatiguée. Je ne ressens plus rien pour personne. Ni pour mes enfants, ni pour moi-même. C'est vrai tout ça. J'ai jamais rien vu de beau dans ma vie. Et ça va pas s'arranger.
C'était « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alexievitch. Traduit du russe par Sophie Benesch. Choix d'extrait, Jean-Pierre Thibaudat. En direct du studio 114 de la Maison de la Radio. Cinquième et dernière émission. Avec Anne-Lise Heimburger. Et les voix de Olga Kokorina, Nicolas Yaroshenko, Vladimir Hant et Julien Gaillard. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière et Catel Guillou. Équipe de réalisation, Julien Douminc, Émilie Couette, Clémence Gross, Laure Egoroff. La fin de l'homme rouge est publiée aux éditions Actes Sud.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.